à Washington.
Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde aujourd'hui, au sommaire de cette édition du mardi 8 juillet 2023. Nouvelle grâce présidentielle au Tchad pour 110 personnes depuis les manifestations du 20 octobre. La Centrafrique confirme des missions de sécurité pour les instructeurs russes arrivés à Bangui.
Ils arrivent avec une autre mission qui consiste à aider nos forces de défense et de sécurité à assurer la sécurité du processus référendaire.
Albert Yaloké Mokwem, porte-parole de la présidence centrafricaine, nous en dira davantage dans la partie magazine. Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. L'expiration de l'accord céréalier entraîne le retrait des garanties de sécurité en mer Noire. Selon Moscou, l'ONU prévient que le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses et met en garde sur les risques de santé. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant. Le journal. Au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, président de la transition, a gracié 110 nouvelles personnes condamnées à des peines de prison après les manifestations meurtrières en octobre dernier. Le point avec Claire Morejibou.
Les personnes jugées, condamnées pour des faits de rassemblement non autorisés, de coups et blessures, d'incendies volontaires et de destruction de biens à la suite des événements du 20 octobre, bénéficient de la grâce présidentielle, indique le décret signé par M. Déby. Plus de 600 jeunes, dont au moins 80 mineurs, ont été arrêtés à N'Djamena suite aux manifs du 20 octobre, puis envoyés dans la prison de Korotoro en plein désert. Après des mois de détention, ils ont été jugés dans des procès de masse sans représentation légale. Depuis, plusieurs centaines de prisonniers ont été graciés. Par ailleurs, Félix-Antoine Tshisekedi, président de la RDC et facilitateur de la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour la transition au Tchad, est arrivé ce matin à N'Djamena pour une visite de 48 heures. Il a été accueilli par le général Mahamat Idriss Déby Itno. Leur rencontre s'est tenue à huis clos et rien n'a filtré de leur discussion.
En Égypte, la justice a condamné le chercheur Patrick Zaki à 3 ans de prison pour fausses informations à cause d'un article dénonçant les discriminations contre les chrétiens en Égypte. Libéré en décembre 2021 après 22 mois de détention préventive, M. Zaki, qui encourait jusqu'à 5 ans de prison, a été arrêté au tribunal de Mansoura, au nord du Caire, et aussitôt emmené en prison, précise Ossam Bagat, le fondateur de l'initiative égyptienne pour les droits personnel. Israël reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, selon l'annonce du cabinet royal à Rabat, citant une lettre du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les détails avec Dilidico.
Le premier ministre israélien a porté à l'attention de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, la décision de l'État d'Israël de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, a indiqué le palais dans un communiqué. Monsieur Netanyahou a informé le souverain marocain que son pays examine l'ouverture d'un consulat israélien à Dakhla, dans la partie occidentale contrôlée par le royaume. Le chef d'état-major israélien a lui aussi fait part de la nomination d'un attaché militaire pour la première fois au Maroc et le bureau de liaison israélien à Rabat va être élevé au rang d'ambassade. Le Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, est considéré comme un territoire non autonome par l'ONU. Depuis près de 50 ans, ce conflit oppose le Maroc aux indépendantistes du Front Polisario, soutenu par Alger. Rabat prône un plan d'autonomie sous sa souveraineté exclusive, alors que le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide des Nations Unies.
Des experts de l'ONU ont appelé ce mardi la Tunisie à cesser les expulsions collectives de migrants subsahariens. Des dizaines de migrants expulsés de Sfax, la deuxième ville de Tunisie, ont été récemment abandonnés par la police dans le désert. Ces experts appellent le gouvernement tunisien à prendre des mesures immédiates pour mettre fin au discours de haine raciste dans le pays et protéger les migrants subsahariens de la violence et garantir l'accès à la justice pour les victimes. Le président chinois Xi Jinping a plaidé aujourd'hui pour un renforcement des liens avec l'Algérie lors d'une rencontre à Pékin avec son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune. L'Algérie, plus grand exportateur de gaz naturel de l'Afrique, cherche à rejoindre le groupe des BRICS qui comprend la Russie et la Chine et se présente comme un ensemble pouvant faire contrepoids aux puissances occidentales. Monsieur Tebboune a entamé lundi une visite d'État de 5 jours en Chine, la première depuis son accession à la présidence fin 2019.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a mis en garde l'Ukraine ce mardi contre ses velléités de poursuivre les exportations de céréales par la mer Noire, prévenant qu'il n'y a plus de garantie de sécurité après l'expiration de l'accord qui permettait de les transporter malgré la guerre. Les précisions de John Lindon.
En l'absence des garanties de sécurité appropriées, certains risques se sont fait jour, a averti le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que si quelque chose doit être élaboré sans la Russie, ces risques doivent être pris en compte. Il répondait à une question sur la volonté exprimée par l'Ukraine de continuer à exporter ses céréales par la mer Noire, avec ou sans l'accord de Moscou sur la sécurité des navires. Dmitri Peskov a aussi accusé l'Ukraine d'utiliser le couloir maritime ouvert dans le cadre de l'accord à des fins militaires. Kiev a frappé la veille le pont stratégique reliant le territoire russe à la Crimée. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré à son homologue turc que la fin de l'accord signifie le retrait des garanties de sécurité faisant du nord-ouest de la mer Noire une zone dangereuse pour les cargos. La Russie a signé lundi son refus de maintenir l'accord céréalier signé en juillet 2022 sous l'égide des Nations Unies et de la Turquie et qui a été prolongé à plusieurs reprises, dénonçant les entraves au commerce des engrais et autres produits russes.
Et la Russie a procédé à des attaques de missiles et de drones la nuit dernière dans le sud et l'est de l'Ukraine, causant des dégâts dans la ville portuaire d'Odessa sur la mer Noire, ont affirmé ce mardi des dirigeants ukrainiens. L'ONU appelle le monde à se préparer à des vagues de chaleur plus intenses et met en garde contre les risques accrus de crises cardiaques et de décès. Cet appel survient alors que l'émissaire américain sur le climat se trouve en Chine pour renouer le dialogue. Le point avec Nani Talani.
Ces phénomènes vont continuer à s'intensifier et le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, avertit John Nairn de l'Organisation météorologique mondiale à Genève. Le phénomène El Niño ne fera qu'amplifier l'occurrence et l'intensité de ces vagues de chaleur, a-t-il prévenu, mettant en garde contre les risques accrus pour la santé. Pour sa part, l'émissaire américain pour le climat, John Kerry, est à Pékin en Chine. Il a affirmé que le réchauffement climatique est une menace pour l'humanité. Arrivé dimanche, il a rencontré Wang Yi, le chef de la diplomatie chinoise, alors que les deux principaux pollueurs de la planète tentent de renouer le dialogue. Il a ensuite été reçu par le premier ministre chinois Li Qiang. Tous les pays du monde, y compris la Chine et les États-Unis, doivent renforcer la coopération et accélérer les réponses face au changement climatique, a souligné le deuxième personnage de l'État chinois. Nous pouvons faire des progrès d'ici à la réunion aux Émirats arabes unis de la COP28, lui a assuré John Kerry en référence à la conférence de l'ONU sur le climat à Dubaï en décembre prochain.
Ici aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump a annoncé avoir reçu une lettre de procureur l'informant qu'il est visé personnellement par l'enquête fédérale sur l'assaut du Capitole à Washington. Le 6 janvier 2021, le grand favori des primaires républicaines pour 2024 affirme qu'on lui a donné seulement 4 jours pour rendre des comptes au grand jury. M. Trump assure que cette procédure mène presque toujours à une inculpation. Ici, le président américain Joe Biden reçoit ce mardi à la Maison-Blanche le président israélien Isaac Herzog, mais la réunion ne devrait pas dissiper les tensions entre le président américain et le gouvernement du premier ministre Benjamin Netanyahou, jugé extrémiste par Washington. Le président Joe Biden a aussi invité lundi lors d'un entretien téléphonique Benjamin Netanyahou à venir ici aux États-Unis. Et puis un Américain a franchi la frontière avec la Corée du Nord lors d'une visite dans la zone démilitarisée qu'il a pas de son voisin du Sud et il a apparemment été placé en état d'arrestation. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute écho avec John Lydon.
La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont signé lundi un accord de 1,9 milliard de dollars pour développer au moins 4 mines dans l'est de la RDC, indique la présidence congolaise. L'accord, qui implique la société aurifère du Kivu et du Maniema, Sakima, prévoit la mise en place de plus de 4 mines industrielles dans les deux provinces. L'entreprise parapublique minière Sakima possède des concessions minières contenant de l'étain, du tantal, du tungstène et de l'or. La présidence n'a pas précisé quels sont les minéraux concernés par cet accord. La demande d'uranium devrait connaître entre 2021 et 2030 une croissance de 27% pour grimper de 38% entre 2031 et 2040 selon l'agence Ecofin. La Namibie, le Niger, l'Afrique du Sud, le Malawi et la Mauritanie sont les 5 pays africains les mieux placés pour profiter des nouvelles opportunités du marché. La consommation a continué à croître aux États-Unis en juin, mais moins qu'attendu, alors que les Américains retrouvent un peu de pouvoir d'achat avec le ralentissement de l'inflation, selon les données publiées mardi par le Département du Commerce. En juin, le total des ventes au détail s'est élevé à 689,5 milliards de dollars, en hausse de 0,2% par rapport au mois de mai.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean Rouget, bonsoir à tous.
Seko Fofana quitte le RC Lens pour l'Arabie Saoudite.
Oui, l'international ivoirien, capitaine du RC Lens, va évoluer la saison prochaine à Al Nassr, club saoudien où joue Cristiano Ronaldo. L'annonce a été faite simultanément par les deux clubs et le joueur sur les réseaux sociaux. Je vous quitte avec le sentiment du devoir accompli et la fierté d'appartenir à cette histoire qui est la nôtre, a déclaré Seko Fofana, 28 ans, dans une vidéo d'adieu publiée sur Instagram. Les performances de Seko Fofana resteront à jamais dans le cœur de tous les amoureux du Racing, a fait savoir le RC Lens dans un communiqué, soulignant que l'Ivoirien, qui a joué 112 fois sous le maillot de Lens, a été auteur de 21 buts. Fofana quitte le nord de la France au moment où Lens s'apprête à retrouver la Ligue des Champions pour la première fois depuis 21 ans.
L'émergence de l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts n'inquiète pas la MLS, selon son patron.
J'ai vu ce qu'il s'est passé en Chine et je ne m'en suis pas inquiété, pas plus que je ne m'inquiète de ce qui se passe en Arabie Saoudite. C'est tout le contraire, c'est ce qu'a affirmé Don Garber en référence aux dépenses faramineuses entre 2015 et 2017 du championnat chinois depuis rentrée dans le rang. La signature de Lionel Messi à Miami est la dernière arrivée de renom en MLS. Destination privilégiée par les vedettes du football en fin de carrière, le championnat nord-américain doit faire face à l'offensive récente des clubs saoudiens. Les transferts de la star portugaise Cristiano Ronaldo, puis du ballon d'or Karim Benzema notamment, attestent de l'attractivité du riche pays pétrolier. Selon Garber, la décision de Lionel Messi, qui a reçu des offres mirobolantes pour évoluer dans le championnat saoudien, mais qui a signé à l'Inter Miami, est le signe de la montée en puissance continue de la MLS.
Les décisions de la VAR seront expliquées en direct lors du Mondial féminin.
Pendant les matchs du Mondial, les arbitres pourront consulter un écran sur le bord du terrain avant d'expliquer leurs décisions, la raison de celle-ci, les joueurs impliqués et faire une brève description de la situation au public grâce à un micro placé sur leur maillot. Ces explications, qui seront retransmises à la fois dans les stades et en direct à la télévision, rendront le processus plus transparent selon Pierre Lugui Colina, président de la commission des arbitres de la FIFA. Mais une inquiétude persiste, les arbitres devront expliquer les décisions en anglais, même ceux dont ce n'est pas la langue maternelle. Ce dispositif sera utilisé pour la première fois par les arbitres lors d'un tournoi majeur pendant la Coupe du Monde qui débute jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il avait été testé lors de la Coupe du Monde des clubs au Maroc cette année et pendant le Mondial des moins de 20 ans en Argentine le mois dernier.
NBA, Joel Embiid veut un titre NBA à Philadelphie ou ailleurs.
« Je veux juste gagner un championnat, quoi qu'il en coûte », a déclaré la star camerounaise des Philadelphia Sixers. Joel Embiid a réussi à décrocher son premier titre de meilleur joueur de la NBA la saison dernière, sa 8e avec les Sixers. Mais Philadelphie a été éliminée par Boston au deuxième tour des playoffs. L'entraîneur Doc Rivers a été limogé et remplacé par Nick Nurse, l'ancien coach de Toronto.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Des dizaines de soldats du groupe paramilitaire russe Wagner sont arrivés en République centrafricaine pour aider à la sécurisation du référendum constitutionnel le 30 juillet. Cette consultation dénoncée par l'opposition devrait permettre au président Faustin Archange Touadéra de briguer un troisième mandat. Idriss Fall joint Albert Yaloké Mokwem, porte-parole de la présidence à Bangui.
Depuis 2017 que les soldats russes sont en Centrafrique dans le cadre d'un partenariat bilatéral, d'une coopération bilatérale en matière de défense. Et depuis 2017 qu'ils sont en République centrafricaine. Alors, il y a des instructeurs qui aident l'armée centrafricaine à monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité. On fait des années qu'ils sont en République centrafricaine.
Les troupes qui sont arrivées là, c'est quelques jours avant le référendum. Pourquoi?
Mais pour votre information, chaque année, les insulteurs russes qui sont dans notre pays font des mouvements de rotation. Il y en a ceux qui passent une année ici, repartent chez eux, et de nouvelles équipes arrivent cette année. Comme vous dites que c'est une arrivée massive, bon, vous en parlez parce que vous l'avez remarqué seulement cette année. Mais ils arrivent avec une autre mission qui consiste à aider nos forces de défense et de sécurité, à assurer la sécurité du processus référendaire.
Maintenant, est-ce qu'on peut savoir combien ils sont?
Non, je rentre pas dans ces détails-là. Ce ne sont pas des informations que j'ai à ma disposition pour vous donner. Mais je peux vous assurer qu'en matière de logistique, en matière humaine, ils sont venus appuyer nos forces de défense et de sécurité pour assurer la sécurité et la paix au moment de ce référendum qui est organisé.
Beaucoup de pays occidentaux, notamment les États-Unis, la France, appellent ce groupe paramilitaire russe Wagner et même les têtes de mercenaires. Qu'est-ce que vous en dites?
Ils les appellent comme ils veulent, mais dans le cadre de cette coopération bilatérale en matière de défense, la République centrafricaine travaille avec la Fédération de Russie. Chez nous, il y a des instructeurs qui sont là, qui travaillent dans plusieurs domaines pour renforcer nos forces de défense et de sécurité, pour les équiper. Ils sont aujourd'hui très professionnels pour être opérationnels sur les terrains militaires, pour être opérationnels là où les dangers se présentent et pour défendre nos frontières.
Et comment est-ce qu'on les paye? Parce qu'on dit qu'ils ont des accès à des mines d'or ou autre.
Quand vous me demandez comment est-ce qu'on les paye, nous sommes dans une coopération militaire. C'est des choses qui se négocient. On ne va pas mettre, ce ne sont pas des choses qu'on met à la disposition de tout le monde. C'est une coopération militaire. On travaille avec un pays partenaire et ça se passe très bien.
Albert Yaloké Mokwem, porte-parole de la présidence centrafricaine, joint à Bangui.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Kenya, des groupes de défense des droits humains font campagne pour que les réfugiés mariés à des Kenyans puissent obtenir la citoyenneté. La constitution kenyane autorise les ressortissants étrangers mariés à des Kenyans à s'inscrire pour obtenir la citoyenneté après 7 ans de mariage. Mais ils doivent avoir le statut de résident pour postuler et cette politique verrouille la situation des réfugiés. Le reportage de Juma Bajanga depuis le camp des réfugiés de Dadaab, le récit est de Claire Morin-Jibou.
Par un après-midi ensoleillé dans le camp de Agadera, l'un des nombreux camps de réfugiés du complexe de Dadaab, Fozia Mohamed s'affaire dans sa boutique. La réfugiée somalienne et mère de 6 enfants dit qu'elle est mariée à un Kenyan depuis plus de 10 ans, mais qu'elle n'a pas encore obtenu la nationalité. Le manque de documents kenyans affecte sa vie et ses affaires.
J'ai cette entreprise pour subvenir aux besoins de mes enfants et de ma famille, mais je ne peux pas la développer comme je le voudrais, car je ne peux pas me rendre à Garissa ou à Nairobi pour acheter des réserves, car je n'ai pas de carte d'identité kenyane. Je suis obligée d'attendre que les marchandises arrivent au camp, ce qui coûte très cher. J'ai des parents à Nairobi, y compris certains de mes enfants, mais je ne peux même pas leur rendre rendre visite sans pièce d'identité.
La constitution kényane donne aux ressortissants étrangers mariés à des Kényans le droit de devenir citoyens en 7 ans après le mariage. Cependant, une loi adoptée par le Parlement en 2011 ajoute une exigence supplémentaire que ces personnes aient d'abord le statut de résident kényan, ce qui exclut les réfugiés qui n'ont pas les mêmes documents de séjour que les autres étrangers.
C'est de la pure discrimination. Je suis mariée à un Kényan et j'ai donc le droit d'obtenir la citoyenneté. Mais depuis plus de 10 ans, on me refuse ce droit.
Groupe de défense des droits humains basé à Garissa, Akina Sheria est allée jusque devant les tribunaux pour demander la suppression de ces barrières administratives pour que les réfugiés mariés à des Kényans puissent demander la citoyenneté. Mariam Jamal est chargée de programme à Akina Sheria.
Dans la plupart des cas, ces personnes ont vécu ici. Ils ont adoré le pays. Ils ont des enfants ici. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour eux à long terme s'ils ne peuvent pas accéder à la citoyenneté, malgré le fait que toute leur famille est basée ici? Où d'autres devraient-ils aller?
Le commissaire kényan aux affaires des réfugiés, John Burugu, a déclaré qu'une politique gouvernementale permettant aux réfugiés de vivre en dehors des camps faciliterait leur situation.
Des socio-économiques inclusion.
L'inclusion socio-économique résout le problème de leur désir d'être des citoyens. Mais ce qui les désavantage peut-être, c'est à cause de ce que nous menons actuellement, c'est-à-dire la politique de campement.
Le Kenya accueille plus de 70 000 réfugiés et demandeurs d'asile de 22 pays, selon le département des affaires des réfugiés. Alors que le gouvernement agit pour promouvoir l'intégration, les réfugiés avec des conjoints kényans, comme Fosia Mohamed, attendent toujours leur naturalisation.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation de défense de la liberté d'expression PEN America affirme qu'aux États-Unis, il y a de gros efforts dans certains États pour restreindre l'accès des mineurs à certains livres. Mais ces nouvelles lois, comme de la censure, sont aussi contestées. Karina Bafradzian de la VOA fait le point, le récit avec Gabi Dorsil.
En juin 2023, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé une loi interdisant dans les écoles ce qu'il appelle les livres sexuellement explicites, omniprésents et vulgaires ou inadaptés sur le plan éducatif. Cette loi oblige l'État à mettre en place un nouveau système de classification des livres dans les bibliothèques des écoles publiques. Selon lui, certains livres contiennent des images et des documents qui ne conviennent tout simplement pas aux enfants. Une loi similaire en Arkansas entre en vigueur en août. Les bibliothèques pourraient même faire l'objet de poursuites pénales s'ils enfreignent la loi. L'Association des bibliothèques de l'Arkansas a déjà intenté une action en justice pour empêcher l'application de la loi. Carol Coffey de l'Association des bibliothèques de l'Arkansas explique que cette loi est formulée de manière très vague et qu'il n'est donc pas évident de savoir comment l'appliquer.
Ils ne cessent de parler de matériel sexuellement explicite. Un des livres mentionnés est intitulé « It's perfectly normal ». Autrement dit, c'est parfaitement normal, de Ruby Harris, qui est un livre d'éducation sexuelle. Il est destiné à aider les parents à enseigner leurs enfants. Les gens ont des idées différentes sur ce qui est approprié et ce qui ne l'est pas, ce qui fait partie du problème.
Le Texas et l'Arkansas ne sont pas les seuls. Des experts comme Nadine Johnson, de l'organisation à but non lucratif PEN America, spécialisée dans la liberté d'expression, estiment que d'autres lois s'inscrivent dans la même tendance.
Au cours des 2 dernières années, PEN America a suivi l'évolution des interdictions de livres dans tout le pays et nous avons constaté qu'au moins 32 États ont été touchés par des interdictions.
PEN America a constaté que les livres qui font le plus souvent l'objet d'un examen approfondi soulèvent des questions de sexualité, de race, de sexe et d'âge. Les critiques affirment que les interdictions ont tendance à supprimer les ouvrages qui s'adressent à la communauté homosexuelle. Nadine Johnson estime que ces interdictions ciblées sont illégales et qu'elles peuvent avoir des conséquences négatives sur les enfants et les adolescents ainsi que sur la société américaine.
Ce que nous assistons aujourd'hui, c'est à une censure imposée par le gouvernement. Et cela devrait inquiéter tout le monde, quels que soient ses points de vue politiques ou son idéologie. car la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que le gouvernement vienne nous dire ce à quoi nous pouvons ou ne pouvons pas avoir accès. C'est une violation de nos droits constitutionnels.
Les Américains en général n'aiment pas non plus l'idée d'une interdiction de livres imposée par le gouvernement. Un sondage publié en juin par la National Public Radio a révélé qu'une majorité écrasante de 69% des Américains s'opposent aux lois des États qui interdisent certains livres dans les bibliothèques scolaires. La Maison-Blanche de Joe Biden les a qualifiés de censure. Dans un geste inhabituel, le gouverneur de l'Illinois, J. Robert Pritzker, a signé une loi interdisant les interdictions de livres. Cette loi privera les bibliothèques et les écoles qui retirent ou interdisent certains livres de tout financement public.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, les migrants originaires d'Afrique subsaharienne tenaillés entre drames en mer et xénophobie en Tunisie. Alors que l'attention était récemment tournée vers les attaques visant les migrants dans la ville tunisienne de Sfax, une série de naufrages sur la côte atlantique a frappé des embarcations de migrants qui tentaient d'atteindre l'archipel espagnol des Canaries. Comment expliquer cette recrudescence de la migration par la mer? Que faire pour protéger ces jeunes et limiter les trames de l'immigration? Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Nous poursuivons aujourd'hui notre série sur la présentation des équipes africaines qui prennent part à la Coupe du Monde féminine qui commence ce jeudi en Australie et en Nouvelle-Zélande. Parmi les quatre représentants du continent africain, nous avons la Zambie. Yacouba Ouedraogo nous amène à la découverte de cette équipe et de ses ambitions pour ce mondial.
Qualifiée pour la première phase finale de Coupe du Monde de son histoire, la Zambie ne vient pas pour autant faire de la figuration, foi de son entraîneur Bruce Mwapi.
Dans notre groupe, les équipes que nous allons affronter ont déjà participé à la Coupe du Monde. Il n'y a que nous qui y allons pour la première fois. Mais cela ne veut pas dire que nous irons là-bas uniquement pour participer. Nous y allons pour nous battre.
Les Capper Queens, appellation de l'équipe nationale féminine zambienne, ont eu une bonne préparation ponctuée par des rencontres amicales réussies. Elles ont fait match nul 3-2 face à la Suisse et battu l'Allemagne 2 fois championne du monde 3-2 grâce à un doublé de leur attaquante vedette et capitaine Barbara Banda.
Le match amical contre l'Allemagne a été un bon test pour nous et une bonne préparation pour la Coupe du Monde. Mais je pense que nous avons vraiment fait de notre mieux.
Logé dans le groupe C, la Zambie va affronter le Japon, champion du monde 2011, lors de son premier match le 22 juillet, avant de rencontrer l'Espagne et le Costa Rica. Les Zambiens devront donc faire avec le football technique des Espagnols, le jeu physique des Costariciennes et la rapidité des Japonaises. N'empêche, le coach Bruce Mwapé, qui avait déjà qualifié ses filles pour les JO de Tokyo en 2021, compte se tirer d'affaire.
Of course, to reach the knockout stage.
Bien sûr, nous voulons atteindre la phase à élimination directe. C'est notre priorité. Nous voulons aller en huitième de finale. Ce qui viendra après sera un bonus.
Pour atteindre les huitièmes de finale, la Zambie mise beaucoup sur sa vedette Barbara Banda, qui avait été écartée de la CAN féminine 2022 à cause de vérifications sur son genre et ne répondant pas aux critères de la CAF. Malgré son absence, ses camarades ont atteint les demi-finales de la compétition. L'attaquante de 23 ans a eu l'autorisation de la FIFA pour participer au mondial et poursuivre sa carrière. Pour Banda, ce cauchemar de la CAN manquée est oublié.
Honestly, that is in the past and... Honnêtement, la CAN fait partie du passé et je me concentre sur la Coupe du Monde et sur mes fans qui se préparent à me revoir. Je suis là pour faire de mon mieux et pour faire ce que j'aime le plus.
La préparation de la Zambie a été assombrie après que le coach Bruce Mwapé et d'autres entraîneurs et officiels zambiens ont été accusés d'avoir contraint des joueuses à avoir des relations sexuelles avec eux pour garder leur place dans l'équipe, selon le journal britannique The Guardian. Le président de la fédération, Andrew Kamanga, dit avoir transmis ses dossiers à la FIFA et à la police zambienne. La capitaine Barbara Banda soutient que cette affaire ne perturbe pas les Copper Queens.
Je pense qu'en tant que joueuse, nous ne pensons qu'au terrain. Le reste, nous le laissons aux dirigeants et tout ce qui peut arriver, c'est à eux de le gérer.
Lors de ses débuts olympiques en 2021, la Zambie a été sortie à la phase de groupe avec 2 défaites et 1 match nul. Pour leur premier mondial, Les Capricorns veulent le mieux faire pour inscrire leur nom dans le quota du foot planétaire.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Millon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente de nos programmes.